إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، cet audio pour parler d'un des trois mots occultes qui est la sorcellerie. Je voulais présenter des grandes lignes, différents points en lien avec la sorcellerie pour pouvoir s'en faire une idée et mieux se soigner, bi'idhnillah. Donc la sorcellerie, elle est reconnue par nos sources, que ce soit la parole d'Allah ou les hadiths, les paroles du prophète alayhi salatu salam. Et on a différentes sources qui vont confirmer l'existence de la sorcellerie, qui vont nous donner des conseils, qui vont orienter notre compréhension. Donc pour s'en faire une image plus juste, plus conforme à nos sources, voilà ces quelques présentations, bi'idhnillah. Donc Allah Azzawajal, il en parle dans le Coran, dans un verset très connu. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Et ils enseignent tous deux aux gens ce qui fait séparer l'homme de son épouse. Et ce verset, il fait référence à la sorcellerie. On l'a dans l'explication, dans ce qu'on appelle le tafsir, l'exégèse. Donc le tafsir nous explique que cette sorcellerie-là, elle avait pour objectif de séparer les couples. Et donc c'est un des objectifs de la sorcellerie et c'est un des effets possibles. C'est-à-dire qu'il est possible, religieusement reconnu, qu'un sorcier ou une sorcière prépare de la sorcellerie et que ça puisse avoir un impact sur le quotidien, sur un couple, une famille ou autre. Donc là, Allah Azzawajal, il a mis en avant la séparation d'un couple, dans ce verset-là. On a un autre verset, ou plusieurs versets, c'est-à-dire un épisode de l'histoire de Moussa, alayhi salam, Moïse, quand il a rencontré Pharaon. L'histoire, elle est très très connue. Pour ceux qui veulent la voir en détail, il y a beaucoup de livres sur le sujet, il y a des sites internet qui parlent de ça, il y a beaucoup de versets du Coran dans différentes parties du Coran qui traitent de cette rencontre-là, où Pharaon avait décidé de réunir des sorciers pour prouver que Moussa, alayhi salam, que Moïse, ne disait pas la vérité et que son message était faux, qu'il n'était pas envoyé par Dieu, que ce n'était pas un vrai prophète. Donc pour prouver ça, il avait demandé à réunir des sorciers, un certain nombre de sorciers, qui se sont unis pour faire de la sorcellerie. C'était une sorte de combat. Et Allah Azzawajal, il avait mis à disposition de Moussa, alayhi salam, Moïse, le bâton qui se transforme en serpent. Donc la rencontre est connue, donc on a les sorciers qui disent à Pharaon, est-ce qu'on va avoir une récompense si on gagne? Ils étaient persuadés de gagner et ils se sont tous associés pour préparer une sorcellerie commune qui va pouvoir vaincre ou convaincre. Donc Allah Azza wa Jal, il a décidé de donner le dessus à Moussa alayhi salam, alors que c'était une sorcellerie qui était très puissante. On le sait par rapport à la formulation d'Allah Azzawajal, quand il a qualifié la puissance de la sorcellerie. Dans un des versets, Allah Azzawajal, il dit « Faja'u bi sihrin azim » Ils ont apporté une sorcellerie puissante. Donc Allah Azzawajal, s'il l'a définie comme étant puissante, c'est qu'elle l'était beaucoup pour nous. C'est-à-dire les notions sont relatives. Quand Allah Azzawajal il dit puissante, c'est que c'était très très puissant pour nous dans notre mesure. Donc faja'u bi sihrin azim. Ensuite, Allah Azzawajal il a donné le dessus à Moussa alayhi salam. C'est-à-dire que le bâton il s'est transformé en serpent. Et le serpent il a réduit à néant leur ruse. Les ruses que eux ils avaient imaginées. Et c'était tellement étonnant pour eux, ils étaient tellement perturbés par ça, ils ont reconnu la puissance divine instantanément. C'est-à-dire que eux ils connaissaient leur puissance, ces sorciers-là. Ibn Abbas, un des compagnons, il nous dit que les sorciers, ils étaient 70. Après, il y a différentes versions. Il y a des chiffres qui sont différents sur le nombre de sorciers. Mais au minimum, ils étaient 70. Donc 70 sorciers qui s'associent, qui font une sorcellerie commune pour avoir le dessus avec Moussa alayhi salam. Et ils connaissaient le type de sorcellerie, ils savaient la puissance que ça pouvait avoir. Et quand Allah Azzawajal, il a annulé leur sorcellerie instantanément, après l'action de Moussa alayhi salam, ils savaient que c'était au-dessus d'eux. Ils savaient que c'était plus de la sorcellerie et que c'était quelque chose de divin. C'était quelque chose qui était bien au-dessus de la sorcellerie. Et dans cet épisode-là, on a aussi une leçon pour tous ceux et toutes celles sur les forums qui disent telle sorcellerie, c'est la plus puissante. Telle sorcellerie, c'est dur de guérir. Par exemple, la sorcellerie juive, c'est dur. Ou la sorcellerie enterrée, c'est dur. Tout ça, c'est des rumeurs. Il n'y a aucun fondement religieux à ces idées-là. Et Allah Azzawajal, il a montré sa puissance avec une des sorcelleries les plus puissantes qu'on connaisse. C'est-à-dire que c'était une sorcellerie plus puissante parce qu'elle a été qualifiée comme ça par Allah Azzawajal. Et c'était à une époque où la sorcellerie, elle était avancée, à l'époque de Pharaon et des sorciers. Donc il y a une leçon. C'est-à-dire que si Allah Azzawajal, il a anéanti une sorcellerie, il a brisé une sorcellerie puissante en un instant, c'est d'autant beaucoup plus facile d'annuler d'autres sorcelleries qui sont moins puissantes. Et ça, c'est une des règles dans l'explication du Coran. C'est ce qu'on appelle un qiyas. C'est-à-dire, il donne le plus haut pour prouver que ce qui est en dessous, ça rentre dans la même règle. Donc, c'est tout autant, tout est facile pour Allah Azzawajal, mais pour que nous, on comprenne, il nous met à disposition des sagesses, bien. Donc, les sorciers, à partir de là, ils reconnaissent la puissance divine, ils se prosternent envers Allah Azzawajal, ils ont reconnu la divinité d'Allah Azzawajal, ils ont reconnu Moussa alayhi salam comme étant un messager envoyé par Dieu, malgré la ruse de Pharaon qui les a menacés. Il leur a dit, est-ce que vous allez croire en lui avant que je vous le permette? Donc à partir de là, il les a menacés et il les a même menacés de les tuer, de les crucifier, etc. Alhamdoulilah, ils ont été croyants et ils ont supporté ce qu'Allah il a destiné pour eux. Mais on en tire l'existence réelle de la sorcellerie reconnue par les textes. En tant que croyants, c'est essentiel pour nous. La source religieuse, c'est la base. C'est la base de tout. Et on ne peut pas remettre en question ces sources-là avec autant de facilité. Certains le font malheureusement, mais les versets prouvent l'inverse et l'explication des versets prouve l'inverse de ce qu'ils disent. Ensuite, on a un hadith, une parole qui est liée aux compagnons, radiallahu anhum, quand ils se sont installés à Médine, juste après la hijra de la Mecque à Médine. Quand ils se sont installés, il y a une rumeur qui s'est répandue, qui disait que les juifs de l'époque à Médine avaient fait de la sorcellerie aux musulmans pour devenir stériles. Ça, c'est un hadith qui nous explique ça. Et la période, c'est-à-dire qu'il s'est passé un certain temps avant que les musulmans ils puissent avoir un enfant. C'est-à-dire qu'il y avait des musulmans qui se sont installés à Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours vivant. Et il n'y a pas eu de femme qui a accouché parmi la communauté musulmane à cette époque-là. Donc ces rumeurs-là, elles ont commencé à attrister les compagnons qui le vivaient mal et qui commençaient à y croire, qui commençaient à se dire qu'il y avait eu de la sorcellerie pour la stérilité et qu'à partir de maintenant, ils ne pourraient plus avoir d'enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui les a beaucoup touchés. Et ensuite, il y a eu une naissance. Et dès qu'il y a eu une naissance, c'est-à-dire une femme parmi les compagnons et les compagnonnes qui a accouché, à partir de là, ils ont été extrêmement heureux. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, le hadith, il prouve ça dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, ils sont disponibles, ils sont authentiques. Donc, dans le détail, on trouve des signes de joie en fait des compagnons qui étaient extrêmement heureux de la naissance. Et le prophète sur ça, il a pris en charge l'enfant. Il a fait les sunan qu'on connaît aujourd'hui avec les bébés. Mais il y a eu cette crainte et il y a eu cette reconnaissance de la sorcellerie et de l'effet que ça peut avoir sur le quotidien, au niveau des sources. Donc ça, c'est ce qui est important pour nous. Ensuite, dans le concret, dans le quotidien, ce qu'on remarque, c'est que les sorciers et les sorcières, ils ont différentes méthodes pour faire de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a l'existence de la sorcellerie réelle. Après, ça peut être intéressant de comprendre que la sorcellerie, c'est d'abord une matière physique. C'est-à-dire qu'on a le sorcier ou la sorcière qui devient mécréant, c'est-à-dire qui quitte l'islam de façon claire pour pouvoir entrer dans le domaine de la sorcellerie et avoir des chayatines, des diables qui sont à leur disposition pour pouvoir faire de la sorcellerie. Vous avez le témoignage du sorcier, de l'ancien sorcier yéménite, soit sur YouTube ou alors c'est traduit aujourd'hui en français en livre. Son témoignage, il a été traduit et il est diffusé en livre, vous pouvez le trouver, l'ancien sorcier yéménite. Il décrit ça dans le détail. C'est connu, c'est vraiment connu dans le domaine, les méthodes pour devenir sorcier, c'est-à-dire qu'il y a plein de témoignages, il y a plein de gens qui se confient sur comment les différentes étapes. Et ce sorcier, cet ancien sorcier yéménite, aujourd'hui, alhamdoulilah, il est croyant, il a fait son repentir et il s'est éloigné de tout ça. Mais il explique qu'à l'époque, quand il est devenu sorcier, on lui a demandé de jeter le Coran dans des impuretés, de déchirer des pages du Coran, d'en faire des chaussures et de marcher avec dans les impuretés. On lui a demandé aussi de s'éloigner de l'appel à la prière pendant 40 jours, de ne pas prier pendant 40 jours. Il y avait plein de rituels comme ça. Et c'est une des sagesses qu'on retrouve dans le Coran. Et Allah Azza wa Jalla, il nous parle de ça dans un des versets. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Il n'enseigne pas aux gens la sorcellerie sans leur dire nous sommes une corruption, quelque chose de mauvais. Ne deviens pas mécréant. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, dans sa sagesse, il a voulu un marqueur clair entre la foi et la mécréance, entre la foi et la sorcellerie. Parce que toute la sorcellerie, elle est basée sur la mécréance. Et on ne peut pas avoir un sorcier ou une sorcière aujourd'hui qui dit je ne savais pas. J'ai fait de la sorcellerie, mais je ne savais pas que c'était de la mécréance. J'ai fait de la sorcellerie. Mais je pensais que c'était autorisé, ou je pensais que le prophète il avait fait. C'est-à-dire qu'il y a un marqueur clair. Et lui, il explique ça dans le détail, c'est très intéressant si vous voulez, si vous vous intéressez à ce domaine, le sorcier yéménite. Mais dans le fond, on sait qu'il y a un marqueur clair entre avant et après. Il y a la foi, et ensuite il y a la mécréance qui va avec la sorcellerie, qui va avec les impuretés et tout leur domaine et leur habitude. Donc une fois qu'ils sont sorciers ou sorcières, on sait qu'ils utilisent de la matière physique. La matière physique, ça va être des produits toxiques, des produits impurs, sales, mauvais, et des effets personnels. Donc très souvent, on va avoir des sorcelleries qui sont faites dans des talismans, par exemple, et en ouvrant les talismans quand on veut coraniser un talisman ou une sorcellerie qui est trouvée chez quelqu'un, on ouvre et on découvre des poils par exemple, ou une photo avec du sang impur dessus, ou des choses mauvaises comme ça, des bouts de verre, du sable, des peaux de mouton, des morceaux de peau de chèvre, des lézards, des choses comme ça en fait. C'est beaucoup de matières physiques, réelles, qui sont impures, mauvaises ou malsains. Des pattes de lapin séchées, des choses comme ça, des choses qui sont très glauques, très mauvaises. Et donc, à partir de ça, ils font de la sorcellerie. Ils vont prendre ces matières-là, ils vont les assembler, et avec ces matières-là, ils vont faire des rituels sataniques. Ces rituels sataniques-là, ça dépend de ce que demandent les chayatines, ça dépend de la créativité du sorcier ou de la sorcière, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, c'est des rituels qui sont faits dans le but de mandater après des chayatines. Une fois qu'ils ont fait ces rituels, ils vont chercher à protéger ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, par exemple, les talismans, très souvent, on les trouve complètement scotchés. Par exemple, beaucoup, beaucoup de scotch par-dessus. Ça peut être du scotch invisible ou du scotch de couleur. Ou alors on peut avoir des talismans qui sont cousus dans des tissus. On a vu aussi des talismans qui sont dans des ceintures en cuir, qui se portent autour de la taille. Différentes méthodes dans l'objectif, c'est pour protéger ce qu'ils ont fait. Pour pas que ce qu'ils ont fait, ça tombe à l'eau, que ça soit touché par l'eau par exemple, ou ça soit perdu ou désassemblé. Parce que ça peut avoir une incidence sur la sorcellerie. Ensuite, selon la sorcellerie qui est faite, il y a différentes façons de la rendre effective. Par exemple, il y a des papiers qui sont à brûler. Ça, c'est déjà arrivé. Des témoignages de personnes, de frères ou de sœurs, qui sortent de chez eux et qui trouvent un papier en train de brûler pile au milieu de la porte. Par exemple, pile au milieu de la porte, un papier bizarre en train de brûler, ça sent très mauvais. Et en fait, c'est un papier qui a été imbibé dans du sang, par exemple, qui est séché. Et ensuite, il rajoute de la poudre et il brûle ça près du domicile de la personne concernée. Ou alors, ils vont demander à enterrer quelque chose. Par exemple, un espèce de talisman. Ils vont chercher une tombe dans un cimetière accessible. Ils vont creuser un petit peu, ils vont l'enterrer discrètement et partir. C'est vraiment malsain. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, mais le but, c'est pas de cerner toutes les pratiques qu'ils ont. C'est juste pour comprendre les grandes lignes. Au cas où, c'est dans la si, imaginons que ça puisse arriver à quelqu'un, pour qu'il ait le bon réflexe pour détruire ce qu'il trouve. C'est juste pour ça que j'en parle. Mais en dehors, tout connaître dans le détail, toutes les pratiques, etc., c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus utile. Donc, une fois que c'est enterré, brûlé, déposé ou mis dans un oreiller ou autre, à partir de là, il y a des chayatines qui sont mandatées, mis à disposition de la sorcellerie, qui vont aller vers la personne concernée pour servir à la sorcellerie. Servir la sorcellerie en étant près de la personne, par exemple. Ou alors servir la sorcellerie en rentrant dans le corps de la personne, et là c'est de la possession, on va en parler inchallah dans un autre onglet. Mais les différents types de sorcellerie, elles existent aussi. C'est-à-dire ça dépend aussi de la méthodologie du sorcier ou de la sorcière. Et on a cet exemple-là d'un type de sorcellerie avec justement Moïse et Pharaon. Quand il y a la rencontre entre Moïse et Pharaon, Allah Azzawajal, il dit Fasaharu ayyunan nas. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle une sorcellerie d'illusion. Sihar al-takhayyul. Nas, donc les yeux ou la vision qui a été visée, et la personne a fini par voir des choses qui ne sont pas réelles. Donc des sortes d'hallucinations. Et donc à cette époque-là, c'était des serpents, avec la rencontre avec Pharaon. Mais en dehors, on le voit encore aujourd'hui. On a des patients et des patientes, quand ils nous parlent de leurs difficultés, je vois telle personne à tel endroit. Par exemple, j'ai eu un patient qui m'expliquait qu'il voyait des personnes avec des bonnets rouges un peu partout où il allait. C'est-à-dire qu'il sortait de chez lui, il voyait des personnes. Il allait en vacances dans son pays d'origine, il voyait des personnes pareilles. Et en fait, il écrivait ça, c'est-à-dire qu'il est parfaitement normal, mais il a ces illusions-là. C'est des sortes d'hallucinations qui sont en lien avec la sorcellerie. Donc il regarde et en ouvrant les yeux normalement, il voit ces personnes-là qui complotent contre lui, il cherche à lui nuire, d'après lui. Donc tout ça, c'est des hallucinations que lui voit. Ensuite, j'ai vu un autre patient qui avait fait l'erreur d'aller consulter un sorcier sans le savoir. C'est-à-dire que le sorcier, il a dit qu'il traitait avec le Coran et la Sunna, mais bon, c'est un sorcier. Et il lui a demandé de tendre sa main, il lui a fait une écriture dans sa main et il lui a serré la main ensuite. Et depuis ce jour-là, le frère m'expliquait qu'il voyait cette personne partout, en allant partout, à des endroits improbables. C'est-à-dire que Il m'expliquait qu'il y avait, il y a des moments où c'était physiquement impossible que la personne elle se déplace. Il me disait qu'il arrivait par exemple en voiture, par exemple, à un endroit. Il allait à l'autre bout de la ville en voiture et il voyait la même personne à pied, elle, qui était présente à l'autre bout de la ville. Et techniquement impossible de faire tout ce trajet-là à pied à des endroits comme ça, c'est-à-dire qu'il travaillait aussi à l'étranger. Et en allant à l'étranger, il voyait toujours cette personne, tout le temps et partout en fait, le sorcier qu'il avait consulté. Alhamdoulilah, Allah Azzawajal, il l'a guéri ensuite. Mais ça, c'est un des types de sorcellerie qui existent. Ensuite, on a un type de sorcellerie qui existe aussi au niveau de la méthode pour préparer la sorcellerie. Ça, c'est des sorcelleries avec des nœuds, par exemple. Et Allah Azzawajal, il en parle dans le Coran. Wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Je demande protection contre celles qui soufflent sur les nœuds. Celles qui soufflent sur les nœuds, c'est les sorcières. On a ça dans l'explication du verset, quand on plonge dans le tafsir, dans l'explication de ce verset. Allah Azzawajal, il parle des sorcières qui préparent des sorcelleries en faisant des nœuds. Et donc ça, c'est un des types de sorcellerie. C'est ce qu'on appelle ensuite Rabt al-Zawaj, les nœuds contre le mariage, les nœuds contre l'intimité du couple. Tout ça, c'est des types de sorcellerie qui sont répandues et faisables. Et souvent dans les invocations, par exemple, quand on fait des ruqyas, ça m'arrive souvent de demander à Allah Azzawajal de défaire ses nœuds. Et là, généralement, on a des réactions importantes de la part des patients et des patientes par rapport à la difficulté que eux ils ont. Donc ça c'est un type de sorcellerie en amont. Ensuite on a la sorcellerie noire. La sorcellerie noire c'est ce qui est fait avec les effets personnels du concerné, que ce soit le patient ou la patiente, les personnes ensorcelées ou les sœurs qui sont ensorcelées. Souvent en consultant les sorciers et les sorcières, il leur demande des effets personnels comme des poils, des cheveux, du sang impur, des vêtements qui ont été portés. Ça peut être des vêtements ou des sous-vêtements. Donc des effets personnels qui appartiennent à la personne concernée pour la sorcellerie. Ça, c'est des choses qui reviennent très très souvent. C'est une méthode de sorcellerie. Et donc c'est un des types. Mais ça, c'est pas le plus important. Les différents types de sorcellerie, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il y en a d'autres, mais je rentre pas dans le détail parce que c'est pas ça qui est vraiment le plus important pour moi, wallah. Et justement, je vais finir avec ce qui me paraît être le plus important. On a les objectifs de sorcellerie. Et c'est ça qui doit, à mes yeux, animer la personne concernée, animer la personne qui a été touchée. Cette personne-là, elle va être impactée au niveau des objectifs de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un sorcier ou une sorcière qui va faire une prestation pour quelqu'un, il va demander à la personne qui demande la sorcellerie envers une autre, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Qu'est-ce que tu veux, en quoi tu veux l'atteindre, cette personne envers qui tu veux faire de la sorcellerie? Donc par exemple, on va avoir une personne qui va dire, je veux de la sorcellerie contre telle femme, ma voisine, et je veux séparer son couple, ou je veux l'empêcher de se marier. Ça, c'est un des types de sorcellerie qui revient, un des objectifs qui revient très très souvent. Donc l'impact pour le patient ou la patiente, il va être au niveau des objectifs de la sorcellerie. C'est sur ça qu'il va avoir des difficultés. Souvent, la sorcellerie, elle est liée avec de la jalousie. Donc il jalouse sur quelque chose. Et ils font de la sorcellerie pour avoir l'inverse. Par exemple, on a une personne qui est très aisée financièrement. Elle va être jalousée par rapport à son argent, qui est visible. Il a une belle voiture, il a des beaux vêtements. Ils vont imaginer qu'il est extrêmement riche, il est millionnaire. Donc ils vont le jalouser sur son argent et ils vont faire de la sorcellerie pour qu'il perde son argent. Donc une des répercussions possibles qu'on voit, que j'ai déjà vu avec beaucoup de patients, c'est par exemple d'avoir des difficultés financières. Le frère, tout allait très bien pour lui, alhamdoulillah, il avait une société, ça, il y avait une baraka, ça marchait très bien. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, ça s'arrête. J'ai vu un frère récemment, par exemple, qui a un restaurant. On lui a jeté quelque chose devant l'enseigne du magasin. Il a trouvé des choses bizarres. Et depuis, les ventes, sans explication, c'est-à-dire que ce n'est pas une période où il y a des vacances, où les gens ils partent en vacances, où il n'y a personne. Du jour au lendemain, le chiffre d'affaires qui chute complètement. Il m'explique qu'il y a des clients qui rentrent, qui s'installent dans le restaurant, qui prennent la carte, qui réfléchissent et qui repartent. Mais beaucoup, pas un, pas deux, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de ces clients à qui ça arrive. Ça, c'est un des types de sorcellerie. Donc, c'est important de se concentrer, je pense, sur l'objectif ou les objectifs de la sorcellerie. C'est ce qui va provoquer un changement brutal dans le quotidien de la personne. Et on va voir ensuite dans l'onglet La voie de la guérison pourquoi c'est important. Parce qu'à chaque sorcellerie, il y a ses waswas. Et si la personne ne fait pas le tri au niveau des waswas, elle peut su subir la sorcellerie sans en avoir conscience. Par exemple, une sorcellerie sur le mariage et des waswas donc pour empêcher le mariage, et une personne qui est convaincue que le mariage, c'est pas pour elle. Donc elle va sacrifier des années de sa vie sans se marier, parce qu'en tête, elle a l'idée installée par les shayatines qui est qu'il faut pas se marier. On verra plus tard. J'ai pas la tête à ça. Ou il n'y a plus d'âme bien. Différents prétextes comme ça que les shayatines, ils ont soufflé par waswas. Et donc, l'impact que ça a sur le quotidien, il devient dévastateur. De base, le mal occulte, on peut le traiter, bi'idhnillah, facilement. Allah Azzawajal, il donne la guérison et c'est une promesse, la guérison. Mais si la personne ne se prend pas en main, ne se pose pas les bonnes questions, elle fait pas une introspection, ça devient difficile de se soigner. Donc, être à l'affût des objectifs, qu'est-ce qui va pas au quotidien? C'est la première question qu'on pose, par exemple, avant de faire une ruqya. On arrive chez un patient ou une patiente et on demande quelles difficultés vous avez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites une ruqya? Et là, généralement, on a des personnes qui nous disent, je devais me marier et c'est tombé à l'eau. C'est bizarre. Il m'a plus donné de signe de vie. J'avais un commerce et ça marche plus, par exemple. Ou j'avais un bon travail et je me fais licencier sans raison, alors que je suis le meilleur du service. Plein, plein d'exemples comme ça, de changements brutaux au quotidien et des difficultés qui arrivent sans explication. Si on a une personne qui travaille dans un domaine où il y a beaucoup de demandes et il avait beaucoup de contrats, il a de l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des causes qui expliquent le fait qu'il ne travaille pas. Là, on peut se poser des questions au niveau de l'occulte. Mais si on a une personne qui ne travaille pas, mais qui n'est pas spécialement motivée pour aller travailler, ou qui ne fait pas d'effort, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de motivation, il n'y a aucun effort, il n'y a aucun CV qui est préparé pour travailler, ou alors la personne a travaillé dans un domaine où il n'y a plus de demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'annonce qui existe, les entreprises ne recherchent pas pour ce poste-là. Ça peut s'expliquer s'il y a des causes. Mais s'il n'y a pas de cause claire, concrète, on peut suspecter l'occulte. Et donc, pour revenir sur les objectifs, donc le mariage, principalement, c'est ce qui arrive. Pour un ou une célibataire, empêcher le mariage, c'est une des sorcelleries qui arrive et qui est très répandue. Ça peut être un ou une célibataire. Ou ça peut être une personne mariée et l'objectif, c'est de la pousser à la séparation. La sorcellerie pour séparer le couple. Et c'est ce qu'Allah Azzawajal, il a évoqué dans le verset. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ensuite, on a une sorcellerie qui revient très souvent aussi, c'est l'infertilité. La sorcellerie pour empêcher d'avoir des enfants. Ça, c'est forcément, donc c'est plus souvent les femmes qui sont touchées que les hommes. Même si les hommes, ça arrive aussi, l'infertilité, donc ça se traduit par une impuissance inexpliquée médicalement et brutale. Du jour au lendemain, comme ça, sans raison, on a des répercussions chez certains hommes. Mais ce qui est le plus répandu, c'est au niveau des femmes. Ça se traduit par des kystes aux ovaires. Ou des pertes anormales, ou des choses comme ça, des impacts qui ne sont pas explicables en fait. À des âges très jeunes, on a des problèmes de personnes plus âgées. Donc l'infertilité, ou la sorcellerie pour empêcher l'intimité du couple. Rabt ani jima, c'est pour empêcher l'intimité du couple. Et sihr li isqat el janin, la sorcellerie pour faire perdre les fœtus. Ou sihr al aqam, c'est une sorcellerie pour la stérilité. Et donc ces sorcelleries-là, elles existent. Si y a une situation où on a un couple et qui n'arrive pas à avoir d'enfants sans que ça s'explique médicalement, c'est-à-dire que le frère et la sœur, ils font des examens médicaux et ils trouvent rien de médical qui explique l'infertilité, ça vaut le coup de faire une ruqya pour vérifier de ce côté-là s'il n'y a pas quelque chose. Et alhamdoulilah, on a vu beaucoup, beaucoup de cas de sœurs qui avaient ces difficultés-là pendant plusieurs années et qui, après une hijama, les ventouses, la cupping thérapie, après une hijama ou une ruqya ou les deux, elles tombent enceintes et alhamdoulilah, elles ont cet enfant ou ses enfants, généralement des jumeaux, parce qu'il y a eu des traitements entre-temps. Une des sorcelleries qui revient aussi souvent, c'est la sihr li tashwih el jamal, la sorcellerie pour faire perdre la beauté physique. Très souvent, c'est des femmes qui sont touchées pour cette sorcellerie-là, li tashwih el jamal, et donc elles sont jalousées par rapport à leur physique, et elles vont avoir, on va leur faire de la sorcellerie. Par rapport à ça, par rapport à leur physique, pour faire perdre cette beauté physique. Et là, ça, au niveau des répercussions du quotidien, ça donne une sœur qui perd ses cheveux du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle a 30 ans de sa vie, elle n'a jamais perdu de cheveux. C'est-à-dire comme tout le monde, c'est-à-dire quelques cheveux, comme tout n'importe quelle femme, en faisant la douche, en se coiffant, en faisant un soin, elle a des cheveux qui tombent. Mais on a certaines sœurs qui, du jour au lendemain, commencent à avoir une perte de cheveux vraiment importante, c'est-à-dire beaucoup de cheveux qui tombent d'un coup de façon inexpliquée. Et donc elles font des examens pareils, médicaux, et ils ne trouvent pas la source. C'est-à-dire du jour au lendemain, en fait, il y a cette perte de cheveux. Ça se traduit aussi par des paralysies faciales excessives, brutales. On a aussi des plaques d'eczéma qui arrivent d'un coup, d'un jour, comme ça. On a des bleus au niveau des jambes. Plusieurs bleus sans cause extérieure. C'est-à-dire que la sœur, elle n'a vraiment aucun souvenir de s'être cognée ou d'être tombée ou autre. Et du jour au lendemain, elle a des séries de bleus, en fait, au niveau des jambes, ce qui nuit à la beauté physique. C'est plus rare, mais on a aussi des sœurs qui sont devenues anorexiques du jour au lendemain. Et ça s'accompagne de waswas qui poussent à l'anorexie. Et on a aussi des sœurs l'opposé, c'est-à-dire qui deviennent boulimiques, qui passent. On a eu une sœur qui est passée de 50 kilos à 95, miskina, Rabbi yachfiha, inchallah, du jour au lendemain, comme ça, en fait, de façon inexpliquée. Elle a commencé à avoir beaucoup, beaucoup d'idées. Elle a fini en psychiatrie. Donc là, maintenant, elle fait des traits. Des passages en psychiatrie, elle a des traitements lourds. Il la laisse ressortir de temps en temps, mais c'est compliqué pour elle, inchallah, qu'Allah lui donne la guérison. Ensuite, on a aussi donc la folie, la perte de la raison, de la sorcellerie pour faire perdre la raison. Et là, c'est une des sorcelleries les plus dures à gérer. On a aussi la sorcellerie pour empêcher l'activité, pour pousser à l'inactivité. Pour empêcher d'entreprendre. Et souvent, c'est des personnes dynamiques qui sont visées, c'est-à-dire des personnes qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de choses, qui déplacent des montagnes. C'est visible, ils ont beaucoup d'actions, ils travaillent, ils ont des activités associatives, par exemple, où ils réunissent du monde autour d'eux, sont très actifs. C'est jalousé, ils sont jalousés par rapport à ce dynamisme-là. Et donc, ils sont jalousés, donc ensuite on les vise par la sorcellerie pour les pousser à l'inactivité. Et on a vu des frères comme ça, broyés du noir du jour au lendemain, en fait, noyés dans le chagrin, qui s'isolent, qui étaient très dynamiques, qui bougeaient beaucoup. Et du jour au lendemain, ils veulent plus bouger, ils sont enfermés dans leur chambre, dans le noir, qui mangent plus, ils restent plusieurs jours allongés. C'est une des sorcelleries qui existent. Ensuite, on a le filtre d'amour. c'est une sorcellerie, Sihalat Tiwala, il y a un hadith qui l'évoque. Le prophète, il en a parlé, et c'est un type de sorcellerie pour faire venir une personne malgré elle. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, il s'intéresse à une femme, et elle n'est pas, elle, intéressée par lui, donc il va lui faire une sorcellerie pour la pousser à être attirée par lui, ou à s'intéresser à lui pour se marier avec elle. Donc malheureusement, c'est répandu, ça aussi, dans les deux sens. Ça peut être une femme qui fait ça à un homme, ou l'inverse, un homme qui fait ça à une femme pour se marier avec elle. Et la personne, elle enchaîne, l'effet, il est concret, ça arrive, et il y a des personnes qui se marient comme ça. Et la personne, elle alterne des moments de lucidité et des moments d'influence de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'à des moments, elle se dit, qu'est-ce que je fais avec cette personne? J'aurais pas dû me marier avec. Je suis pas heureuse, il faut que je divorce, il faut que je refasse ma vie. Et à d'autres moments, elle est sous l'influence de la sorcellerie, donc elle se rend plus compte de ce qui se passe. Donc ça va prendre en compte aussi, ça existe. Alhamdoulilah, il y a plein d'autres sorcelleries. C'est selon, en fait, c'est selon le besoin. Il y a autant de sorcellerie que de créativité, que de jalousie. Il y a des personnes qui sont jalouses, ils vont avoir une jalousie pour quelque chose de précis, ils vont faire une sorcellerie qui correspond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sorcellerie inatteignable ou il n'y a pas de sorcellerie infaisable. C'est juste une question de tarif. Quand ils vont consulter un sorcier ou une sorcière, ils disent je veux ça. Il n'y a pas un sorcier qui va dire c'est pas possible. Ça va même très loin, même dans des délires, et ça va vraiment très loin. Donc, ce qui permet de se faire un aperçu, une idée de la sorcellerie, c'est de voir les changements et ce qui pourrait être jalousé chez une personne. Par exemple, on a déjà vu une sorcellerie par rapport à la religion. Une personne qui, dans une famille, est très très religieuse. Et par son comportement, par ses paroles, par ses actes, elle va renvoyer à d'autres l'image de la pratique, etc. Et donc ça les met en porte-à-faux parce qu'eux, ils sont pratiquants et pas les autres. Et donc ils vont commencer à jalouser. Cette jalousie, elle se transforme en haine. Donc ils vont finir par faire une sorcellerie pour empêcher de pratiquer la religion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu souvent chez différents patients et patientes. Et donc là, c'est lié à de la jalousie et changement brutal. C'est-à-dire que la personne qui avait beaucoup d'habitude depuis plusieurs années d'avoir une pratique religieuse, d'avoir des facilités dans les adorations, qui du jour au lendemain vont angoisser de faire les ablutions, qui vont plus pouvoir, vont penser plus pouvoir prier, ils vont avoir des difficultés pour faire des bonnes actions, ils vont être extrêmement attachés ou attirés par les péchés. Et donc ça, c'est l'effet du waswas. On va le voir, Inch'Allah, dans l'onglet, la voie de la guérison, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikoum d'avoir écouté, en espérant que ça a été utile. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, pour des informations complémentaires, à passer par la page Foire aux questions, pour qu'on puisse en répondre dans le détail pour toutes les situations, bi'idhnillah. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.